Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
Nous rendons hommage aux propriétaires traditionnels de la terre à partir de laquelle SBS French diffuse. Le peuple Wurundjeri de la nation Kulin, ainsi que leurs aînés passés et présents. Nous rendons hommage également à toutes les tribus et clans aborigènes, ainsi que les insulaires du détroit Torres auxquels nous diffusons.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue au programme de ce mardi 5 avril avec vous Jean-Noël Ducasse et Christophe Mallet. Au cours de cette émission, le journal, les sports, la rubrique des présidentielles à jour J, moins 5 et on parlera aussi de cinéma. Il est 13h, c'est l'heure du journal. Les grands titres de ce mardi 5 avril, le ministre de la Défense, Peter Dutton, a déclaré que l'Australie pourrait avoir des sous-marins à propulsion nucléaire plutôt que prévu. L'Australie participera aux pourparlers de l'OTAN sur de nouvelles sanctions contre la Russie, alors que Joe Biden, le président américain, qualifie à nouveau Vladimir Poutine de criminel de guerre. L'ambassadeur de Russie aux Nations Unies a déclaré qu'il présenterait ce qu'il appelle des preuves au Conseil de sécurité de l'ONU pour montrer que ses forces n'ont pas tué des civils en Ukraine. Le ministre de la Défense, Peter Dutton, insiste sur le fait que l'Australie pourrait prendre livraison des sous-marins à propulsion nucléaire plutôt que prévu. Un calendrier de livraison des sous-marins à propulsion nucléaire d'ici 2040 a déjà été suggéré. Peter Dutton a déclaré au Seven Network qu'il pourrait être ici plus rapidement avec l'aide des États-Unis et du Royaume-Uni.
We've got a pretty good arrangement with the US and the UK at the moment. I met with Admiral Aquilino, who's in Australia, out from Honolulu last Friday week, and they're very keen to help us. They understand the situation here in the Indo-Pacific, and I think we can condense the timeline of delivery.
Les taux d'intérêt ne devraient pas changer par rapport à leur niveau actuel lorsque le conseil d'administration de la Reserve Bank se réunira ce mardi. Le taux est toujours à son plus bas historique de 0,1%. Le gouverneur de la banque, Philip Lowe, a concédé qu'une hausse des taux d'intérêt cette année est possible, mais a répété à plusieurs reprises que le conseil d'administration prendrait son temps quant à une décision. L'enquête sur la confiance des consommateurs et ANZ Bank Roy Morgan doit également être publié ce mardi, la première depuis le budget fédéral de la semaine dernière. La confiance des consommateurs, un indicateur des dépenses futures des ménages, s'est détériorée au cours des dernières semaines. Le principal groupe de l'agriculture australienne souhaite que 11 milliards de dollars soient investis dans l'Australie rurale. La Fédération nationale des agriculteurs présentera ses revendications lors de la conférence nationale de deux jours à Canberra cette semaine. Le Premier ministre Scott Morrison et le chef de l'opposition Anthony Albanese prendront la parole lors de l'événement. La National Farmers Federation demande que 4 milliards de dollars soient investis dans 20 projets de développement régional à travers le pays et 5 milliards de dollars dans un fonds de télécommunications en région rurale pour améliorer la connexion Internet. Dans son discours pré-enregistré pour l'événement, on s'attend à ce que Scott Morrison dise aux agriculteurs que le gouvernement de coalition a investi 100 milliards de dollars dans les régions rurales depuis son arrivée au pouvoir en 2013 et s'engage à faire davantage. Une quatrième dose de vaccin COVID-19 est désormais disponible pour les personnes âgées et vulnérables en Australie et qui ont reçu une dose de rappel il y a moins de 4 mois. Les personnes âgées de plus de 65 ans sont désormais éligibles à une quatrième dose, ainsi que les membres de la communauté aborigène de plus de 50 ans, les personnes immunodéprimées et les résidents des établissements de soins pour personnes âgées et handicapées. Les Australiens les plus âgés sont priés d'obtenir une protection supplémentaire avant l'arrivée de l'hiver, avec une augmentation probable des cas de Covid-19. Les responsables de l'immigration disent qu'ils n'ont pas l'intention de renvoyer la famille Murugupan dans l'ancienne résidence à Bileola, au Queensland, avant les élections, à la suite d'un certain nombre de demandeurs d'asile qui ont été libérés des centres de détention à Sydney et à Melbourne ces dernières semaines. La secrétaire adjointe au service d'immigration et d'établissement, Cheryl Ann Moy, a déclaré à une enquête du Sénat qu'aucune considération n'était envisagée pour les déplacer de Perth, où ils sont en détention communautaire. L'Australie doit participer à une réunion des ministres des Affaires étrangères de l'OTAN sur la guerre en Ukraine. La ministre des Affaires étrangères, Mary Spain, se rend en Europe ce mardi pour la réunion à Bruxelles. Une nouvelle action est envisagée contre la Russie pour son invasion de l'Ukraine. L'Australie n'est pas membre de l'OTAN, mais est désigné comme l'un des partenaires de l'Alliance. Jusqu'à présent, l'Australie a imposé des sanctions à plus de 500 personnes liées au gouvernement du président russe Vladimir Poutine. Le président américain Joe Biden a de nouveau qualifié le président russe Vladimir Poutine de criminel de guerre. Les critiques continuent à propos du meurtre de civils dans la ville ukrainienne de Boutcha. La Russie nie que ses troupes aient commis des crimes dans la ville, mais Joe Biden dit qu'il doit y avoir un procès pour crime de guerre à ce sujet.
You may remember I got criticized for calling Putin a war criminal. Well, the truth of the matter is so what happened in Bucha. This warrants him, he is a war criminal. But we have to gather the information. We have to continue to provide Ukraine with the weapons they need to continue the fight. And we have to gather all the detail so this can be an actual, have a war crime trial. This guy is brutal. And what's happening in Bucha is outrageous. And everyone's seen it.
L'ambassadeur de Russie aux Nations Unies a déclaré qu'il présenterait ce qu'il appelle des preuves au Conseil de sécurité de l'ONU pour montrer que ses forces n'ont pas tué des civils en Ukraine. Vasily Nebenzia déclare que l'histoire d'un massacre par les forces russes dans la ville de Boutcha est un faux complot de l'Ukraine et de ses alliés occidentaux. Il déclare que si des civils meurent, ils ne sont pas délibérément ciblés par les forces russes.
This is a warfare, and in warfare anything happens, and you cannot exclude that civilians are dying in a war, and that is a sad fact of life. But the footage that we are being presented with, in particular in Bucha, on which I spoke, does not give us any doubt that that was a stage. That was a stage, and we will present more evidence on that. Tomorrow, when we speak in the Security Council.
Et maintenant, l'analyse du général français Dominique Trinquart. Il était sur Radio France Internationale.
Cette région a été occupée pendant presque un mois et a été une ligne de confrontation. Donc, pendant l'occupation ou au moment du départ, il y a probablement des soldats russes qui se sont donnés à leur penchant mauvais, j'allais dire. Ça prouve qu'ils ne sont pas très bien encadrés, surtout. Oui. Dans l'armée russe, il y a assez peu d'officiers. Il y a un trou, si vous voulez, entre les soldats et les officiers, qui fait qu'il y a toujours une déficience dans l'encadrement russe. Donc je pense plus à ça, parce que si c'était une politique générale de l'armée russe, elle connaît les dégâts que ça va faire sur l'opinion publique dans le monde et sur son impact même dans la population russe. Donc je crois plus volontiers à des dérapages qui sont dus à un mauvais encadrement de l'armée russe, qui au passage se concrétise non seulement par les exactions qu'on voit, mais également pour les désertions qu'on a observées par ailleurs.
La vice-première ministre ukrainienne Irina Verestchuk a déclaré que 15 autobus se dirigeaient vers la ville assiégée de Mariupol pour évacuer les civils. Le comité international de la Croix-Rouge a tenté d'évacuer les civils de la ville bombardée début mars, mais a été contraint de rebrousser chemin en raison des conditions dangereuses. Une nouvelle tentative est en cours. Reportage Anastasia Becchio et Boris Vichit pour RFI.
Dans un coin du centre commercial transformé en infirmerie, des soignants se relaient pour accueillir les rescapés de Mariupol. Plus d'une fois, la psychologue Elena Ipatova a dû aller jusqu'aux voitures garées sur le parking pour en faire sortir des gens complètement perdus.
La première chose, c'est de les faire sortir de l'état de stupeur dans lequel ils sont pour qu'ils comprennent qu'ils sont en sécurité, qu'ils doivent maintenant satisfaire leurs besoins élémentaires, aller aux toilettes, boire de l'eau, se laver. Parce que les gens sont dans un état d'inhibition, ils se cramponnent à leur siège de voiture et ils sont perdus. Il n'y a plus de tir, ils sont en sécurité, mais ils ne savent pas du tout quoi faire.
Dans leur grande majorité, les déplacés de Mariupol ne font que transiter par Zaporijia avant de gagner une autre région d'Ukraine, voire l'étranger. Le gros du travail psychologique se fera là-bas, souligne Maria, une autre psychologue.
Quand on affronte des situations difficiles, le psychisme se mobilise et on peut tenir. Mais quand le danger passe, on se détend et c'est alors que tout ressort. Il va y avoir énormément de travail.
Selon le maire de Mariupol, quelques 90 000 habitants ont pu quitter la ville ces dernières semaines.
Le secrétaire général des Nations Unies a accusé certains gouvernements et chefs d'entreprise de mentir au sujet de l'action contre le changement climatique. Un rapport majeur de l'Agence des sciences du climat de l'ONU, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, indique que les émissions mondiales sont sur la bonne voie pour dépasser les limites convenues dans l'accord de Paris de 2015 et atteindre 3,2 degrés d'ici la fin du siècle. Le rapport indique que seuls de fortes réduction d'émissions dans tous les secteurs au cours de cette décennie peuvent changer les choses. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a déclaré que la duplicité de certains chefs d'entreprise au niveau mondial sur la question aura de graves conséquences.
Nous sommes en bonne voie pour un désastre climatique. Grandes villes submergées par les eaux, vagues de chaleur sans précédent, tempêtes terrifiantes, sécheresses généralisées, l'extinction de millions d'espèces de plantes et d'animaux, tout cela n'est pas de la fiction ou même exagéré. Voilà selon la science où nous mène notre politique énergétique actuelle. Nous sommes en route pour doubler les objectifs de l'accord de Paris d'atteindre 1,5 degré de réchauffement climatique. C'est une urgence. Mais les grands pays émetteurs de gaz à effet de serre et les entreprises ne sont pas seulement aveugles. Ils foncent dans le mur. Ils étouffent notre planète avec leurs intérêts personnels et leurs investissements dans les énergies fossiles, alors qu'il existe des solutions renouvelables, moins chères, pourvoyeuses d'emplois, de sécurité énergétique et garantissant une meilleure stabilité des prix. Les promesses doivent être concrétisées en action et maintenant.
On passe à la météo pour ce mardi. En Australie, à Perth, il fera 27 degrés. Adélaïde, 24. Melbourne, 21. Hobart, 17. Canberra, 23. Sydney, 25. Brisbane, 29. Cairns, 32. Darwin, maximal de 33 degrés. Et à Alice Springs, maximal de 35 degrés. Un rappel des grands titres de ce mardi 5 avril. Le ministre de la Défense, Peter Dutton, a déclaré que l'Australie pourrait avoir des sous-marins à propulsion nucléaire plus tôt que prévu. L'ambassadeur de Russie aux Nations Unies a déclaré qu'il présenterait ce qu'il appelle des preuves au Conseil de sécurité de l'ONU pour montrer que ses forces n'ont pas tué des civils en Ukraine. Fin du journal et merci de rester avec nous.
Vous aimez le programme en français? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/sbsfrench. Thank you.
Journal des sports, et on commence avec bien du football et le bilan de la journée de championnat qui s'est terminée ce week-end en France. La Ligue 1, c'est avec Antoine Grenier.
Trois fois lors des six derniers matchs, éliminé de la Ligue des Champions par le Real Madrid, corrigé 3-0 à Monaco fin mars, n'en jetez plus. Les Parisiens se sont vengés face à Lorient, victoire 5-1. Pour la première fois, Messi, Neymar, Mbappé ont marqué tous les trois dans le même match, c'est à souligner. Mais incontestablement, l'homme de la soirée, c'est le Français, auteur d'une prestation XXL et également triple passeur décisif.
Je suis dans un grand moment, je suis dans une très belle équipe. On a réussi à prendre du plaisir aujourd'hui. Je pense qu'on a réussi à en donner. On reprend une marche en avant. On sait que maintenant, on n'a plus que le championnat. Il faut gagner. Il faut ramener ce 10e titre aux supporters, au club. On a tous déconné. On a tous perdu. Voilà, on s'entraîne tous les jours. On se voit plus que nos familles. Donc, c'est important qu'on ait du respect pour ce qu'on fait. On a une occasion de faire l'histoire. On va continuer notre marche en avant. Il faut continuer à s'appuyer sur ce match d'aujourd'hui pour continuer et pas retomber dans nos travers.
Kylian Mbappé, l'attaquant parisien au micro d'Amazon Prime Vidéo. Dans les autres matchs de cette 30e journée de Ligue 1, Marseille est plus que jamais le dauphin des Parisiens après son succès 4-2 sur Saint-Etienne. Et puis Strasbourg pointe le bout de son nez. Le Racing vainqueur de Lens 1-0 est désormais 4e du classement devant Nice et Monaco qui a dominé Metz 2-1.
Les Monégasques 6e au classement. Antoine, 2 points devant Lyon.
L'OL 9e après son prolifique succès contre Angers. 5 buts dans ce match. Score final 3-2. Rejoint deux fois au score par des Angevins accrocheurs. Après un doublé de Moussa Dembélé, l'OL s'en est remis à sa recrue, Tété, pour accrocher la victoire. Le Brésilien, prêté par le Shakhtar Donetsk, a quasiment marqué sur son premier ballon. De quoi lui faire déjà une place dans le cœur des supporters.
Antoine Grenier, donc, pour le bilan de la Ligue 1 en Espagne également. Le Barcelone, le FC Barcelone, qui est deuxième derrière le Real de Madrid. Eh bien, on voit une bataille des champions avec Pierre Chaperon.
Ouais, et avec surtout cette merveille de but signé Pedri, c'est le but que vous allez voir partout sur internet. Le joueur de 19 ans au 16m50, crochet Rakitic, feinte Diego Carlos pour décrocher une frappe croisée du droit qui vient se loger à gauche des cages sévillanes. Vous imaginez bien que ce soir en Espagne, pays où on aime les superlatifs, on l'a déjà comparé à Iniesta pour la technique, Messi pour la frappe. Cette pépite de but est venue récompenser une partie où le Barça a eu les meilleures occasions mais a buté sur le gardien international marocain Bounou qui a repoussé les assauts de Piqué, Dembélé, Ferran Torres. À noter que Aubameyang titulaire n'a pas marqué, lui qui restait sur 3 buts en 2 matchs. On retiendra aussi ce soir le gros match de Ronald Araujo, le défenseur uruguayen de Barcelone, meilleur joueur de la rencontre pour Morientes, l'ancien international du Real Madrid. Peut-être un match un petit peu moins intense du Barça qui a mis pas mal de temps avant de trouver la faille et mettre de l'intensité, même si Xavi a dit après la rencontre que le club avait joué un match presque parfait, que le Barça était à son meilleur niveau. Le Barça est deuxième à 12 points du Real et un match en moins. Séville a le même nombre de points, tout comme l'Atlético de Madrid d'ailleurs, mais descend à la 4e place en raison du nombre de buts marqués et de la différence particulière, les Blaugrana qui joueront jeudi contre Francfort en Ligue Europa.
Pierre Chaperon pour RFI. Allez, on parle toujours de football, direction le Qatar. Cette semaine, vous le savez, la semaine dernière, pardon, il y a eu tirage au sort donc, de cette Coupe du Monde. On connaît le groupe maintenant dans lequel seront la France, seront la Belgique, le Canada et toutes les autres équipes francophones. Et pour aujourd'hui, donnons parole aux Qataris. Quelle est l'atmosphère sur place au Qatar à quelques mois de cette Coupe du Monde ?
Here is not about the government, it's about the culture here. Yeah. The culture is not accepting certain things. They don't accept being drunk on the sidewalk. They don't accept the craziness that's caused by big parties and stuff. Qataris will tolerate this as much as you don't try to push and to resist and to protest against the community here. It's like if I like certain food, why I have to push it to you all the time? Why I have to tell you, you have to like this dish, and then I show you a picture of this dish, and then every time I tell you about this dish, eat it, enjoy it, but you don't enforce it to me.
Voilà donc pour l'atmosphère au Qatar à quelques mois avant cette Coupe du Monde. Allez, on conclut ce journal avec de la F1. Vous le savez sûrement, mais le Grand Prix, c'est ce week-end. Grand Prix, premier Grand Prix depuis plus de 3 ans, dû aux annulations à cause de Covid les deux dernières années. Donc la F1 revient à Melbourne. On écoute Lewis Hamilton. Il se pose toujours beaucoup de questions sur sa carrière.
I don't have any desires to race in anything else. And I was just listening to Valentino and just seeing him at Imola. We've grown up in the space, being at those tracks, the smell, the vibration, the sound. It's difficult right now because to imagine, still today, difficult to imagine life without it. But at some stage, there's going to be a period of my time where I don't have it. But I'm sure I'm going to miss all that cocktail of all those emotions that fly from those different elements.
Voilà le champion britannique Lewis Hamilton. C'est tout pour le journal des sports pour aujourd'hui. Vous écoutez le programme en français et vous êtes sur Radio SBS.
Donnez votre opinion sur les sujets qui vous intéressent. Envoyez un SMS au 04 88 79 93 23 ou rejoignez notre page Facebook pour participer à la conversation. Vous êtes avec Radio SBS en français.
Le ZAP France est à 5 jours du premier tour de l'élection présidentielle. Les phrases choc des candidats, leurs dernières envolées lyriques avant de laisser parler les urnes. Vous allez entendre les 12 candidats. Emmanuel Macron, le président, candidat à sa succession. Éric Zemmour, Marine Le Pen, Nicolas Dupont-Aignan, Valérie Pécresse, Yannick Jadot, Anne Hidalgo, Jean Lassalle, Nathalie Arthaud, Fabien Roussel, Philippe Poutou. Et pour commencer ce ZAP France, Jean-Luc Mélenchon.
Comment a-t-il pu imaginer d'envoyer un gosse de 12 ans en apprentissage ?
Tout le week-end, il y a eu une fake news, comme on dit aujourd'hui, qui a circulé, qui a été relayée par Jean-Luc Mélenchon.
Les conventions internationales qu'a signées la France interdisent qu'on envoie un jeune au travail avant la fin de la scolarité obligatoire. Ce sont les conventions internationales du travail. En France, la scolarité obligatoire, c'est 16 ans. Personne n'ira jamais en apprentissage avant.
Nos enseignants nous écoutent. Jamais je n'ai dit qu'à 12 ans, il fallait mettre des jeunes en apprentissage. C'est un scandale de dire ça.
J'expulserai les délinquants étrangers. Il y en a 15 000 dans nos prisons. Ils représentent 25% de les prisonniers totaux. Troisièmement, je déchoirai de la nationalité française tous les binationaux qui seront délinquants et criminels. Là aussi, ça fera du monde. Et troisièmement, j'expulserai aussi les fichiers S. Tout ça, mis bout à bout, ça devrait faire 1 million de personnes au bout du quinquennat. Emmanuel Macron a fait rentrer 2 millions de personnes. Moi, j'expulserai 1 million de personnes.
C'est extrêmement grave. Ça veut dire qu'en France, en 2022, on demande aux gens de ne plus allumer leur lumière ou de
on
se chauffer.
On a tous reçu des mails, nous demandant de baisser
aussi.
Le chauffage,
aussi,
de baisser la
parce
lumière,
qu'il fait
de
moins
utiliser les machines.
Voilà. Ça, c'est la conséquence de la politique qui a été menée par Emmanuel Macron. Une politique de gribouille en matière énergétique. Une politique qu'il a déterminée au début de son mandat dernier en disant « on va abandonner le nucléaire ». Donc en réalité, on a arrêté d'investir dans la filière. Il a désorganisé par ses annonces la filière nucléaire. Et aujourd'hui, nous ne sommes plus en capacité de chauffer correctement l'intégralité des Français.
Et j'habiterai chez moi, voilà. Et je crois que c'est essentiel. Et puis je vais vous dire autre chose, je réduirai aussi très fortement... l'indemnité des présidents, des ministres. Je supprimerai les privilèges des anciens présidents, des anciens premiers ministres. Ça suffit. Ça suffit. Il faut que... Et je vais vous dire pourquoi je le ferai. Pas seulement pour avoir l'air bien, Parce qu'en fait, si ça va si mal aujourd'hui, c'est qu'une fois au pouvoir, ils perdent la tête. Ils sont hors sol. Il faut que le président et tous ses ministres aient les pieds dans la réalité de la vie quotidienne.
Moi, ce que j'ai vu ce week-end, j'ai vu un président Macron qui a dévoilé sa vérité. Il ne fera rien. Sur les retraites, il a annoncé qu'il ferait la réforme. Il va prendre 2 ans et demi de concertation, comme d'habitude.
Il ne la fera pas, cette réforme des retraites.
Mais j'ai vu un président Macron qui, en Corse, après avoir 5 ans méprisé tous les territoires, après avoir 5 ans refusé de parler de l'autonomie des régions, qui, parce qu'il y a des mouvements en Corse, cède à la rue. Moi, je n'ai jamais cédé à la rue. Moi, je ne ferai pas l'autonomie sous la pression. Moi, je ferai un grand mouvement de libération des énergies des territoires pour tous, mais certainement pas sous la pression de la menace.
Et d'ailleurs, heureusement que je suis dans cette campagne pour dire un petit peu tout ça, pour que plus jamais ça, pour qu'il n'y ait plus jamais de campagne comme celle que nous venons de vivre. Elle a été tout simplement dégueulasse. Nous avons une fois menti comme des arracheurs de dents aux Français. Nous n'avons rien dit
de
ce qui s'était passé. Oui, non.
Vous?
Non. Mais moi, j'ai contribué parce que j'ai pas pu me faire entendre. Donc, sauf depuis 15 jours. Mais si j'avais été à la hauteur, je me serais fait entendre.
Quand on est sur le terrain aujourd'hui, et je suis beaucoup sur le terrain, beaucoup de Françaises et de Français hésitent. Eh ben, je les appelle à ne pas se laisser confisquer le premier tour. À ne pas participer de la dégradation de la politique qui vise en fait à ne jamais voter pour ses idées, à ne jamais voter pour ses convictions. Emmanuel Macron a été condamné 2 fois pour inaction climatique. Vous voulez lutter contre le dérèglement climatique ? Dimanche prochain, votez écologiste.
Les grandes idées ne meurent jamais. Les grands idéaux sont indestructibles. Nous sommes indestructibles. Nous avons toujours rencontré des obstacles, nous avons subi des défaites, essuyé des revers, éprouvé des déceptions, mais toujours nous avons continué notre chemin constant, opiniâtre et confiant, comme nous le ferons à l'avenir, quoi qu'il arrive. Ayez confiance en vous, soyez fiers.
Mais oui, il y a un souci, parce que le programme du candidat Macron, c'est de promettre de porter les retraites à 1100 euros, mais, de dire à tous les Français, mais vous allez travailler et plus, et plus longtemps. C'est la double peine. Travailler plus pour gagner plus, ils recyclent de l'ancien, et travailler plus longtemps, jusqu'à 65, 67, 68 ans. Vous savez combien, quelle est l'espérance de vie en bonne santé d'un ouvrier ? C'est 59 ans. Ouais. 59 ans. Ouais. L'espérance de vie en bonne santé d'un ouvrier, c'est 59 ans. Permettez-leur de pouvoir vivre dignement et en bonne santé.
Finalement, par rapport à tout ce qui nous tombe sur la tête, voilà, parce que c'est une flambée des prix qui est générale, y compris là aujourd'hui pour acheter ces produits alimentaires, hein, on est confronté, ces fruits, ces légumes.
Mais qu'est-ce qu'on fait alors? Donc, on bloque tous les prix, c'est Jean-Luc Mélenchon qui le propose.
Moi, je pense que tant que les travailleurs, ils n'ont pas cette capacité de contrôler l'ensemble de l'économie et donc d'imposer un contrôle des prix et d'imposer un blocage des prix à D'abord au plus gros, parce que moi, ce que je crains, y compris avec ce blocage des prix, c'est qu'on fasse payer les intermédiaires et les petits.
Alors, c'est même pas la peine d'imaginer, parce que on va pas faire semblant. Je ne serai pas élu, le NPA sera pas au pouvoir, et les capitalistes n'ont pas trop à s'inquiéter dans l'immédiat. Mais par contre, à l'issue du premier tour, on aura des décisions à prendre. Et des décisions à prendre, ça sera essayer d'expliquer que dès maintenant, on a des combats à mener, des combats sociaux. Il faudra se remobiliser. C'est pas que pour demain, c'est dès maintenant, on devrait le faire, quoi, contre les attaques sociales qui viendront inévitablement. On le sait, quel que soit l'élu parmi les favoris, ben, ça va nous faire mal. Donc il faut qu'on se défende, il faut qu'on reconstruise le mouvement social. Et ça sera aussi de reconstruire une gauche radicale. On dit un parti politique anticapitaliste, antiraciste, féministe, écologiste, antimilitariste. Voilà, on a besoin d'un outil comme ça qui fasse que les opprimés puissent se défendre. Pour nous, ça va être l'urgence du moment et ça sera dès l'issue du premier tour.
Votre communauté, vos conversations. SBS French.
Vous êtes avec Radio SBS en français.
J-5 avant le premier tour de l'élection présidentielle, c'est ce dimanche. Les Français sont appelés aux urnes pour choisir entre 12 candidats déclarés. Et l'épidémie de Covid-19 a jeté une lumière crue sur le système sanitaire français. Des hôpitaux publics surchargés qui n'arrivent plus à retenir leurs soignants, mais aussi des territoires où l'on ne trouve pas de médecins, ni pour consultation, ni pour vaccination. De nombreux Français vivent en effet dans ce que l'on appelle des déserts médicaux. Marie Casadebé pour RFI.
La commune de Lormes, 1300 habitants, n'avait plus de dentiste depuis près de 10 ans. Quand Martin Dubert et Vera Bruchoff ont eu la bonne idée de s'y installer, le couple de quinquagénaires vient des Pays-Bas.
La vie ici, c'est beaucoup mieux qu'en Pays-Bas. C'est plus calme, la nature, c'est formidable ici.
Allô, cabinet dentaire, bonjour.
Faute de soignants français candidats, le département fait appel à des cabinets de recrutement pour trouver la perle rare à l'étranger. Le couple de dentistes partage ainsi des locaux avec l'un des 16 médecins généralistes hollandais de la Nièvre. Si leur cadre de vie correspond à leurs attentes, ils n'avaient pas imaginé une telle quantité de travail.
On a besoin encore 2-3 dentistes en plus. On a des patients qui n'ont pas vu des dentistes 15, peut-être même 20 ans.
En Pays-Bas, tous les clients sont soignés, ce n'est pas des gros problèmes, c'est seulement un abcès par jour. Et si c'est 5, 10, quelquefois, c'est presque bizarre.
Le département a donc décidé de soutenir financièrement les étudiants en filière dentaire à condition qu'ils s'engagent à commencer leur carrière dans la Nièvre. Ce système de bourse existe déjà en médecine générale. Jamila Andjeshahiri-Valois en a bénéficié pendant 18 mois lorsqu'elle était interne.
La bourse a permis de financer par exemple un crédit d'auto. C'est pas rien parce que bon, les villes sont quand même très éloignées les unes des autres. Donc c'est vrai qu'avoir une voiture, c'est important.
Autre critère d'installation important pour ce jeune médecin, ne pas travailler seul.
Dans une maison de santé, je me sens entourée. Il y a 2 médecins avec moi, il y a aussi des infirmiers, une orthophoniste. Et je trouve que c'est bien de collaborer aussi avec d'autres personnes et d'être pas toute seule, isolée dans son cabinet. Voilà.
Une condition pour de nombreux jeunes diplômés. Le département met donc là aussi la main à la poche. Mais malgré ces mesures, les besoins sont encore nombreux. Rien qu'en médecine générale, il manque au moins 20 professionnels, soit 10% de plus qu'aujourd'hui. Le conseil départemental a donc décidé de les salarier lui-même, Fabien Bazin et son président.
Effectivement, ce n'est pas la compétence d'un département. Néanmoins, face à l'incurie de l'État sur ce sujet-là, on prend le taureau par les cornes et on va sur toutes les balles à la fois. Donc, recrutement de médecins généralistes, parce que ça correspond à leur demande. Ils ont envie de travailler 35 heures et pas, comme leurs aînés, de faire 2 semaines en une. Et s'il faut mettre un billet supplémentaire, on le fait. La santé n'a pas de prix.
En percevant le revenu des consultations, le département de la Nièvre espère à terme rentrer dans ses frais et s'éloigner du risque de désert médical.
À l'approche du premier tour de la présidentielle, le gouvernement met en avant une forte baisse du chômage. Ce sont notamment les jeunes et les cadres qui devraient profiter des embauches en 2022. Mais qu'en est-il vraiment? Si les besoins en compétences des entreprises continuent de croître, les recruteurs ont, eux, bien du mal à trouver de bons profils. Agnès Cacumor.
Sous un plafond vitré, une halle immense et 3000 postes de travail répartis sur 2 niveaux. Bienvenue à la station F à Paris, le plus gros campus de start-up au monde. C'est ici que des spécialistes en jean basket mènent à bien leurs projets. Parmi eux, Julie Boucon, cofondatrice de Holly Holly, une application d'apprentissage d'anglais pour enfants.
Nils, on en est où du lancement de la nouvelle fonctionnalité pour Moon?
Ça avance plutôt bien.
Moon, c'est cet animal de compagnie que l'enfant voit grandir à force de se connecter, sourit la start-upeuse.
On a lancé notre concept en septembre 2015 et on est aujourd'hui 15 collaborateurs. La moitié de l'équipe est à Paris à la station F et pour le reste, les collaborateurs sont un peu partout en France, ils sont en télétravail.
Le télétravail, la parité homme-femme font partie de l'ADN de cette entreprise qui s'apprête à lever des fonds pour la 2e fois. Mais dénicher de bons profils et surtout des profils féminins n'est pas une chose aisée.
Il y a très peu de femmes dans les écoles d'ingénieurs d'informatique. On ne donne pas assez goût aux femmes et aux filles dès le plus jeune âge aux mathématiques et aux sciences. Il y a un énorme travail à faire là-dessus. Je pense qu'on a besoin d'être finalement toute une équipe assez mixte.
Une équipe mixte et qui vient d'accueillir en son sein une nouvelle recrue. Priska Sumampo est indonésienne et a fait ses études à Paris. C'est depuis Jakarta, où elle est partie pour un bref séjour, qu'elle se confie.
Et alors? La chaleur plus importante que j'ai cherchée chez Oli a été surtout ma relation avec les autres membres d'équipe. Deuxième, c'est la mission dans le travail, si le projet me plaît ou pas. C'est vraiment important d'avoir confiance en soi. On peut être aussi bon que n'importe quel homme travaillant dans la tech.
Les offres d'emploi pleuvent, assure Laetitia Niodo, directrice générale adjointe de l'Association pour l'emploi des cadres APEC. Mais ce sont désormais les candidats qui posent leurs conditions.
Les candidats et candidates souhaitent désormais s'engager dans des entreprises qui leur correspondent, qui donnent du sens à leur action. Quand on rentre dans l'entreprise, il faut que, au-delà du discours, on trouve dans la réalité ses valeurs à l'œuvre.
Le décalage entre les nouvelles aspirations des cadres et la réalité dans les entreprises est encore grand. Mais les patrons sont prévenus, ils devront désormais en tenir compte s'ils veulent profiter des meilleures compétences disponibles sur le marché.
Et enfin, pour ce troisième reportage de Radio France Internationale consacré à l'élection présidentielle française, focus maintenant sur l'éducation. C'était l'une des mesures phares du quinquennat d'Emmanuel Macron, le dédoublement des classes de CP et de CE1 en réseau d'éducation prioritaire. Quel est le bilan de ces classes particulières ? Reportage à l'école élémentaire Victor Dury à Lille, dans le département des Hauts-de-France, par Laurence Théo.
Mesure phare de la politique éducative du quinquennat, le dédoublement des classes en CP, en CE1 et en grande section de maternelle est perçu comme une bonne idée. En témoigne la première concernée, Axel, et ses grands yeux étonnés, elle a bénéficié du dispositif.
Comme ça, il y avait moins d'élèves tous en même temps, il y avait moins de bruit et c'était plus bien, vu que comme ça, on pouvait un petit peu mieux apprendre. On est plus proche de la maîtresse.
La maîtresse s'appelle Clémence Lambinet. Elle est assise pour l'entretien sur une chaise d'écolier. Selon elle, le bilan est d'abord positif.
On est là pour chaque enfant. Il y a beaucoup d'interactions. On sollicite les enfants beaucoup plus en fait, que dans une classe entière. On prend mieux en charge leurs besoins aussi parce qu'on différencie beaucoup plus et on est à l'écoute.
Seulement, faute de locaux, le dédoublement n'est pas toujours possible. De ce fait, l'école Victor Duruy a opté pour la co-intervention. Autrement dit, deux enseignants pour 28 élèves mettent dans le même lieu, dans la même classe. Clémence Lambinet apprécie l'innovation dans la pédagogie, mais...
Dans les réserves, on a déjà cette co-intervention qui peut marcher parce que, par exemple, dans mon école, elle marche vraiment, vraiment très bien, mais qui peut être très compliquée parce que quand on est en binôme, il faut réussir à s'entendre.
Je te rappelle tout à l'heure, de toute façon, pour voir comment on fait pour demain. Ouais.
Selon les évaluations du ministère, les élèves les plus en difficulté ont progressé. Toutefois, les résultats se situent plutôt en deçà de ce que l'on pouvait attendre. Si les professeurs des écoles approuvent le dédoublement des classes, ils regrettent de ne pas avoir été consultés au préalable et surtout ils ne comprennent pas que le dispositif « plus de maîtres que de classes » ait été supprimé au profit des classes de CP et CE1 dédoublées.
Allô, oui, SNUIPP, c'est Snor, bonjour.
Ouais. Alain Talleux est enseignant, il est aussi le co-secrétaire du SNUIPP, syndicat de la région Nord.
Plus de maîtres que de classes, c'est quoi? C'est en gros, si à 5 classes, on va rajouter un 6e enseignant. Et on va profiter de ce 6e enseignant pour, sur certains moments, dédoubler les classes. Pas forcément que en CP, pas forcément en CE1. Mais sur l'ensemble des classes, à un moment où les enseignants penseront que c'est nécessaire de le faire. Et ce statut de plus de maîtres que de classes, c'est laisser l'initiative aux enseignants. Nous, enseignants, on considère qu'on est concepteurs de notre métier, c'est nous les experts, et donc c'est à nous de décider à quel moment on a besoin de faire un dédoublement. Là, en fait, le dédoublement, il s'est imposé à nous. Et finalement, c'est très révélateur de la philosophie Blanquer, c'est l'aspect autoritaire du personnage.
Enfin, les syndicats pointent un dispositif très coûteux qui n'a pu voir le jour qu'en supprimant des millions de postes dans les collèges et les lycées, près de 8000 postes depuis 2017, soit l'équivalent de 166 collèges.
Le premier tour de l'élection présidentielle, c'est ce dimanche, et le second tour, deux semaines plus tard, dimanche 24 avril.
Vous êtes avec Radio SBS en français.
13h45 sur les ondes SBS French. L'Alliance française French Film Festival prend fin dans 4 villes demain, mais je vous assure qu'il y aura des encore screenings. Et à cette occasion, on vous propose un extrait de l'interview avec Karine Maurice, l'attachée culturelle à l'ambassade de France et directrice artistique du Festival du film français en Australie.
Votre communauté, vos conversations. SBS French.
Est-ce que le public australien, mais également le public franco-français qui assiste au festival, recherche plutôt des grands films avec des grandes figures françaises ou plutôt des films confidentiels ?
C'est vrai qu'on a un casting un peu de rêve sur cette édition. On a tous les grands. On a Gérard Depardieu qui est extraordinaire. Il est dans 3 films, il est extraordinaire dans Maigret. Il est très drôle, très touchant dans The Villa. Il est incroyable dans Lost Illusion. On a aussi Catherine Deneuve tout en sincérité, très très touchante dans Peaceful d'Emmanuel Berco. J'aime beaucoup ce film de René Clément qui n'est pas forcément très 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 connu. Enfin ici, et avec un Alain Delon qui est flamboyant, qui est un de ses premiers films et qui est d'une beauté à tomber par terre. On a aussi Fanny Ardant, j'ai un film d'une délicatesse, d'une beauté avec Fanny Ardant qui est exceptionnelle. On a les acteurs qui sont très bankable en France, comme Sophie Marceau, qu'on n'a pas vu depuis longtemps, Virginie Efira, Juliette Binoche, qui est extrêmement connue ici, Laure Calamy, qui a très bien marché grâce à 10%, qui a été cette série qui a vraiment porté le cinéma français ici en Australie. Et on a toute une génération de jeunes artistes, de jeunes qui arrivent et qui montent. Et par exemple, le film d'Audiard, il a fait un film sur le 13e arrondissement de Paris, en noir et blanc, et avec que des inconnus, que des jeunes acteurs. Et je trouve ça formidable d'avoir cette place, de laisser cette place à la nouvelle génération. Et j'ai pas mal de films où il n'y a pas de stars dedans. La Traviata, My Brother and I, Mes frères et moi, qui est un premier film de Johan Mankan, il n'y a pas de tête d'affiche. Et je pense que c'est un film qui va marcher parce que c'est un film magnifique et qui est extrêmement touchant. Si vous prenez le film le premier film d'Agnès Volpé aussi, qui est Entre les vagues, avec il y a Angélique Kidjo, mais elle a un rôle second. Les deux caractères principaux, c'est deux jeunes filles, elles explosent à l'écran. Et c'est génial parce que je trouve qu'il y a un nouveau souffle. On n'a pas peur en France de prendre des acteurs qui sont pas très connus et faire de grands films. Et je crois qu'en plus, quand je discute avec les Australiens, à part Binoche, à part Isabelle Huppert et maintenant Virginie Efira qui commence à être pas mal connue, ils connaissent pas très bien les acteurs français. Donc c'est pas forcément un créneau en fait. On peut se permettre de proposer des films où il y a des gens qui sont un peu moins connus. Gilles Lelouch, il est dans 3 films et en fin de compte, il commence à être connu ici alors qu'il est il a explosé en France. Et pareil pour Vincent Lindon.
Vous avez évoqué certains films, alors on ne les a pas tous mentionnés bien sûr puisqu'il y en a énormément dans cette 33e édition. Et vous parliez de Romain Duris et Virginie Efira, je vais me permettre moi de donner mon coup de cœur. C'est le film En attendant Bojangles, tiré du livre d'Olivier Bourdeau. Je l'annonce aux auditeurs, c'est mon livre préféré. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce film que vous allez sortir au French Film Festival ?
Bon, déjà, je suis tout à fait d'accord avec vous, Marianne. Moi, quand j'ai découvert ce livre il y a 2 ans et demi, 3 ans, il m'a bouleversée. Je pense qu'il est important de le lire avant d'aller voir le film. Quand on voit la bande-annonce du film, on a l'impression que c'est une sublime histoire d'amour, romantique, etc. Et en fait, on parle de choses aussi qui sont difficiles, comme la folie, quoi. Et j'avais hâte de voir comment ils allaient traiter ce film. Il y a un parti pris qui a été pris du réalisateur en consultant évidemment un auteur, parce que quand on adapte un film, on achète des droits à un auteur, et c'est comme dans la musique, on achète aussi on doit respecter l'œuvre. Donc là il y a eu une vraie discussion avec l'auteur, et le parti pris du réalisateur était non pas comme dans le livre de faire parler l'enfant, mais faire parler le père. Et donc c'est Romain Duris qui raconte un peu l'histoire, qui joue le père, qui joue l'amoureux. Et donc, c'est un petit peu différent, c'est le petit switch qui se prend par rapport au film. Moi, quand j'ai lu le bouquin, j'ai écouté non-stop la version de Mr. Bojangles par Nina Simone, qui est vraiment un de mes titres préférés, qui a été repris aussi. La version de Sammy Davis Jr. est incroyable. Et là, dans le film, elle est interprétée par un chanteur de New Zealand. Donc c'est assez marrant. Il y a un petit bridge avec notre partie du globe. Et donc oui, il est flamboyant, il est magnifique. On retrouve. Après, quand on a lu le livre, à chaque fois, on imagine peut-être différemment les personnages. Est-ce qu'on aurait vu Virginie Est-ce qu'on aurait vu une brune? Est-ce qu'on aurait vu Romain Duris? Je pense qu'il faut aller voir ce film parce qu'il est magnifique. Et qu'il nous emmène à Paris. Il y a plein de fantaisies. Ça parle d'amour. Ça finit en château en Espagne. C'est magnifique. On a la chance d'avoir un cinéma qui a pas de frontières. Et donc, c'est vrai que dans la sélection de films, j'ai choisi deux films sans frontières, qui sont deux films que j'ai achetés, qui n'étaient pas distribués. Donc, j'ai un petit budget. Donc, j'ai acheté 20 séances parce qu'il faut que je puisse le présenter à l'ensemble du territoire. Donc, ça veut dire que sur chaque ville, sur ces films que j'achète, donc, qui sont Mally Twist et Memory Box, qui sont des films qui parlent de la francophonie, on a une ou deux séances par ville. Donc, il faut vraiment faire attention pour pas passer à côté. Et donc, c'est vrai que ces films-là qui sont sur le Mali, c'est des films, c'est Memory Box, c'est sur la guerre du Liban, c'est une coproduction canadienne, française et libanaise. C'est important, ça nous fait voyager, quoi. Ça nous permet aussi de sortir de notre quotidien et d'avoir une autre vision de la France et aussi de la francophonie, c'est important.
Donc on le répète, le French Film Festival édition 2022 débute au début du mois de mars, donc dans quelques jours. Peut-être que je mets la charrue avant les bœufs, mais est-ce que vous avez déjà la tête sur l'édition 2023 ?
J'ai déjà une liste de films que j'ai pas pu avoir pour cette édition et qui seront pour l'année prochaine. Des films qui devaient sortir plus tard, des films qui n'étaient pas terminés, des films qui veulent... Ils ont peur aussi un petit peu les distributeurs français en se disant... Mon Dieu, la première mondiale est en Australie. Et si on a des mauvaises critiques, et si le film est piraté, s'il se retrouve sur les plateformes, ça tue notre sortie. Donc ils ont plein d'inquiétudes. Donc on passe notre temps à les rassurer. C'est vrai que avoir UFL en première mondiale 9 mois avant la sortie officielle, bah, ça a donné aussi à ce festival une légitimité. Et ça me permet aussi de rassurer les distributeurs. C'est pour ça qu'on a Maigret avec Gérard Depardieu qui est extraordinaire. Tiré de l'œuvre de Simonet en première mondiale. On a aussi Compromat, qui est un film d'action. Oui, la France sait faire des films d'action, qui est un super film d'action, genre Le Fugitif, et qui parle d'un directeur de l'Alliance française, mais c'est une histoire vraie en plus, qui se retrouve compromis dans une histoire et qui est en Sibérie, donc qui arrive à s'échapper de la Sibérie, à foncer, à essayer de rejoindre Moscou pour aller à l'ambassade de France. Donc c'est vraiment... Et Philippe Lelouch est incroyable dans ce film. Et donc voilà, j'ai déjà en tête une quinzaine de films.
Merci beaucoup Karine Maurice, on le rappelle, hein, vous êtes la directrice artistique de l'Alliance française French Film Festival. On vous souhaite bon courage pour les derniers préparatifs avant l'édition 2022. Merci beaucoup pour votre temps.
Merci Marianne. Est-ce que je peux juste vous prendre encore 2 minutes? Je voudrais juste, parce que je me suis pas encore exprimée auprès des Français, donc je suis ravie de le faire en français. C'est ma première fois que je parle du line-up en français. Il y a vraiment des films qui parlent aux Français. J'ai aussi voulu faire plaisir aux Français, parce que je sais qu'on est loin, qu'on a été bloqués. Donc si vous pouvez faire passer le message, allez voir Authentique. C'est le film, le biopic sur NTM. Chaque fois que j'en parle en australien, ils connaissent pas du tout NTM. Bon, je pense que nous, on connaît tout NTM. Il a un super biopic et je l'ai acheté exprès pour le festival. Donc, j'ai que une ou deux séances par ville. Donc, faites bien attention, Authentique. Et il y a un autre film aussi que j'aimerais vous parler. C'est Paul W.R. Last Journée, Le Voyage de Paul W.R. C'est un premier film d'un jeune réalisateur qui s'appelle Romain Quirot. Avec, dedans, il y a Jean Reno. Et c'est la première fois qu'on a un film de science-fiction français qui n'a pas été fait par Luc Besson, avec un budget de 1 million d'euros, donc ridicule. Il s'est battu pour ce film et il est génial. Moi, j'ai pris une claque, je ne suis pas une grande admiratrice, je ne suis pas une dingue de science-fiction, mais j'ai adoré. La musique, c'est que des titres des années 80. Et le gars, il a été capable, sur une scène un peu à la Tarantino, de nous mettre la musique de Mantalo, d'Eddie Mitchell. Donc, c'est super décalé. Ça va, mais ça, moi, en tant que Française, ça m'a éclaté. Donc, allez au cinéma, je vais retourner dans les salles, et puis faites-vous plaisir, parce qu'on a des films formidables dans cette édition. Et n'hésitez pas à emmener vos amis australiens. Et évidemment, on a OSS 117. Donc, comment expliquer aux Australiens OSS 117? Comment expliquer qu'on puisse avoir un personnage comme ça, raciste, misogyne? Et en plus, c'est OSS par Nicolas Bodos, et c'est en Afrique. Avec Pierre Ninet qui joue dedans, allez le voir, il est très drôle, quoi. Mais c'est inexplicable, je ne sais pas comment l'expliquer aux Australiens. Si vous avez une solution, aidez-moi, je ne sais pas comment expliquer ce caractère, à part de leur dire que c'est du cinquième degré, ne le prenez pas au premier degré, s'il vous plaît.
Et on est très heureux de pouvoir retourner au cinéma, ce retour à la vie normale qui fait du bien. Merci beaucoup, Karine.
Merci à vous, à très bientôt.
Au revoir.
Votre communauté, vos conversations. SBS French.
Et voilà, 13h et bientôt 57 minutes sur les ondes de Radio SBS. Nous arrivons à la fin de l'émission. Merci d'avoir été avec nous. Prochain rendez-vous, c'est jeudi à partir de 13h. À très bientôt et on vous laisse avec Clara Luciani qui vous interprète Amour toujours. Belle journée.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci ? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.